Le Seigneur nous parle ce matin. Le Seigneur a quelque chose à nous dire. L'Éternel, notre Dieu, veut nous parler. Et je crois la parole que Ritza vient de nous partager, gardez-la bien en vous, parce que ce que j'ai à vous partager ce matin, je crois que ça va dans ce sens aussi. Et ce que Ritza a dit, c'est valable pour ce qui va être partagé ce matin. Tout à l'heure, Marianne, elle a cité plusieurs versets bibliques, des encouragements, des textes qui nous fortifient, qui nous font du bien. Et j'en ai d'autres hein, encore. Dans Genèse 2, il est dit « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. » Ça, c'est Dieu qui dit ça à Abraham. Une autre, ne soyez pas triste, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. C'est dans Néhémie. Ou dans 2 Samuel, avec mon Dieu, je franchis une muraille. La tempête est passée. La tempête est passée. D'ailleurs, le verset là, le suivant, je ne sais pas si je voulais partager ou pas, mais je reprends. Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous avez tous peut-être de ces calendriers bibliques où on tire tous les jours le petit feuillet puis un verset. D'ailleurs, Claudia, quand elle vient chez nous, elle le met à jour généralement. Parce que de temps en temps, on a du retard. Mais voilà, c'est des versets qui nous encouragent, des versets qui nous font du bien. Et puis voilà, on les reçoit simplement tels qu'ils sont. Et moi, j'avais envie ce matin de reprendre... Pour commencer, ce verset d'Ésaïe 30, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le reprendre dans son contexte, parce que c'est bien beau d'entendre un beau verset, un verset qui nous fait du bien. Mais après, on part et il se passe quoi? Est-ce que vraiment il fait son effet en nous? Le contexte dans lequel ce verset est donné, le peuple de Dieu ne veut plus avoir affaire à Dieu. Le peuple d'Israël ne veut plus avoir affaire à Dieu. Il a décidé de faire confiance à l'Égypte, c'est l'Égypte qui est sa protection. Et puis de la part des prophètes qui sont là, ils veulent pas entendre de vérité, ils veulent entendre des paroles flatteuses, des paroles qui font du bien, des paroles qui sont agréables. Et par cette attitude-là, le peuple d'Israël part à la catastrophe. Et Ésaïe le dit, il le dit bien. Votre faute sera pareille pour vous à une fissure menaçante qui grossit dans une haute muraille, et dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. C'est la menace qui plane sur le peuple d'Israël. Et il continue au verset 15, « En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Cette parole, ils l'ont entendue, mais elle n'a rien changé. Elle n'a rien changé pour eux. Ils ne l'ont pas voulu. Et pourtant, ces paroles qui sont données au travers d'Ésaïe, elles sont données au peuple choisi par Dieu. Ce peuple au travers duquel Dieu veut manifester sa gloire. Ce peuple avec lequel Dieu a fait alliance. Il y a une alliance entre Dieu et ce peuple. Et Dieu annonce au peuple d'Israël des conséquences qui vont être terribles. Si tu ne le veux pas, mais ça va être terrible pour toi. Mais en même temps, verset 18, il dit « Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. » C'est pas trop tard, mais changez d'attitude. Changez d'attitude, c'est ce que Dieu veut faire comprendre au peuple d'Israël. Et on va voir que parfois, il faut du temps pour que les paroles fassent leur effet et puis qu'on puisse recevoir et entendre ce que Dieu veut nous dire. Parce que ce mode de fonctionner, il est visible dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Il y a une alliance entre le peuple d'Israël et son Dieu, le peuple qui est béni par Dieu, qui devient une source de bénédiction. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à Genèse 2, à Abraham, « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. » « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Bénédiction est source de bénédiction. Et le peuple vit sous cette bénédiction. Et puis gentiment, la routine s'installe. On a l'habitude, tout va bien. On baisse la garde, le peuple d'Israël baisse la garde. Il entre dans des compromis, il commence à lorgner à gauche à droite ce que les autres peuples font, et il entre dans les mêmes démarches, dans les mêmes fonctionnements. Et finalement, ça devient un peuple qui est corrompu. Et on va prendre un exemple, un épisode qui est relaté dans les Juges, Juges 6. Ce chapitre commence par « Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. » Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Le réveil sonne tout à coup. Le peuple est placé face à la réalité, c'est le jugement de Dieu. Dieu qui donne son jugement, il dit « Mais vous, vous êtes éloigné de moi. » Et ça continue dans ce chapitre 6. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Et les conséquences, Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian. Et ça continue juste après. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. Le peuple d'Israël, il est écrasé par les Madianites pendant 7 ans. Ils doivent se cacher, c'est vraiment la catastrophe pour eux. Il y a tout qui est détruit, ils n'ont plus rien. Mais pendant 7 ans, ils continuent de se battre par eux-mêmes, ils essayent de s'en sortir. 7 ans avant qu'ils ne soient prêts à entendre ce que Dieu a à lui dire. À partir du verset 7. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais, et encore une fois le « mais vous ne m'avez pas écouté. » Quand on ne veut pas écouter Dieu, c'est dramatique. Quand on veut rester dans notre propre vision des choses, puis qu'on n'est pas prêt à se laisser remettre en question par Dieu, ça devient dramatique. Pour le peuple d'Israël, 7 ans de misère. Pour être prêt à entendre cette parole, pour que le cœur soit enfin disposé à entendre la parole de Dieu, qu'il soit ramolli. Et c'est l'appel de Dieu de revenir à lui. C'est la porte de sortie pour se retirer du jugement de Dieu. C'est la seule porte de sortie. C'est la seule porte de sortie face à son jugement. Mais c'est une porte de sortie qu'il nous donne, c'est sa porte de sortie, parce qu'il veut vivre autre chose avec son peuple. Et cette porte de sortie, c'est directement suivi par une promesse de restauration. Si tu entres dans cette démarche, il va y avoir une restauration. Et dans ce cas-là, ça va se faire au travers de Gédéon. Dieu va appeler Gédéon. Et le peuple va être délivré au travers de Gédéon. Et on le voit d'une manière tellement miraculeuse. Je ne vais pas le prendre ce matin. Mais quelques chapitres plus loin, on lit « Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal. » Et même en lisant l'histoire, à un moment donné, Gédéon lui-même, il aura des attitudes qui vont devenir des pièges pour lui, qui vont devenir des pièges pour sa famille et pour le peuple d'Israël en entier. Et la situation se répète à nouveau. Cette alliance avec Dieu qui bénit, mais gentiment on se laisse tomber dans une routine, on laisse les choses, on se laisse vivre. La corruption entre en jeu et c'est le jugement de Dieu. L'appel à la repentance, cette promesse de restauration et l'alliance qui est restaurée. Et par nous-mêmes, on le voit dans nos propres vies. Si on y va par nous-mêmes, on n'y arrive pas. On est toujours pris aussi dans cette espèce de vie sans fin. Alors Florence vous l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est un jour spécial pour nous en Suisse. Mes petits-enfants nous ont envoyé un petit message hier à Marianne et moi pour nous dire « C'est la fête des pétards !» C'est la journée des pétards. C'est pas que ça, hein. La fête nationale, c'est l'occasion de tenir des beaux discours pour tout le gratin politico-économique, etc. Hein, de se vanter de tout ce qui va bien, de voir tout ce qu'on veut voir aussi pour l'avenir. Et pour nous, Église, en tant que peuple de Dieu, c'est aussi l'occasion de proclamer la royauté de Dieu sur notre pays, son autorité sur notre nation, sur ses dirigeants, d'appeler sa grâce, d'appeler sa restauration. Parce qu'on va le voir, en tant que nation, on n'est pas épargné par ce qui se passe, par ce qu'on vient de parler, comme le peuple d'Israël fonctionnait. On n'est pas épargné par ça. Ce Dieu qui est à la première place dans notre Constitution. Alors j'ai noté un petit bout de la Constitution, vous en faites pas, j'ai pas lu les 197 articles et tout ce qui va avec. Mais juste le début, au nom de Dieu Tout-Puissant, le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde, déterminés à vivre ensemble leur diversité dans le respect de l'autre et l'équité, conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leur responsabilité envers les générations futures, sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, arrête la constitution que voici. Et puis ensuite, il y a tout ce qui vient après. Mais c'est au nom du Dieu Tout-Puissant, c'est la fondation. Tout est basé là-dessus. Et quand on réfléchit un petit peu à tout ce qui se passe, est-ce que tout ce qui est basé, tout ce qu'on place aujourd'hui dans notre Constitution, tout ce qui est mis, est-ce que toutes ces choses-là, on peut dire, c'est au nom de Dieu Tout-Puissant? Et j'ai envie de poser cette question, mais peuple de Suisse, tu en es où? Aujourd'hui, dans ta relation avec Dieu, dans ta soumission à lui, ce Dieu que pourtant on invoque dans la base de notre Constitution, c'est des fondations qui sont posées, des fondations solides au nom du Dieu Tout-Puissant. Des fondations qui amènent à une alliance. Une alliance entre le peuple et son Dieu, entre Dieu et le peuple. C'est ce que veut dire ce préambule. On est béni par Dieu, mais on devient source de bénédiction. Et la Suisse l'a été. Elle a été bénie, elle a été source de bénédiction. Si on pense simplement à ce qui est devenu le CICR actuellement, ça a été aussi une bénédiction qui est partie de la Suisse. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, ces fondations, elles sont régulièrement attaquées. Elles sont vues comme ringardes, comme vieillottes. On propose même des choses pour les changer, les remplacer par autre chose. Généralement, quand on s'attaque aux fondations d'un édifice, on le déstabilise. Et automatiquement, il se fait des fissures, la maison commence à bouger. Des fissures qui peuvent grandir et ça peut aller jusqu'à ce que tout s'écroule. Et il est parlé de ça dans Juges 6. une fissure menaçante qui grossit dans une haute muraille et dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Pour nous en Suisse, pour nous en Occident, parce que c'est vrai que je parle de la Suisse, mais c'est une mentalité toute occidentale aussi. Ce n'est pas que dans notre pays. Avec le temps, la routine, elle s'est installée. On fait de plus en plus confiance à l'homme, à nos capacités, à nos banques, à nos finances, à nos assurances, toutes ces choses-là. Finalement, on est bien. Et ça devient la corruption face aux valeurs de Dieu. Et quand j'ai écrit ça, j'ai repensé au message que Florence nous a donné dimanche passé quand elle parlait d'Ananias et Saphira, qui simplement ont compté que sur eux, voyaient leur bien, leur prestance, ils voulaient eux être bien vus. On a vu où ça les a conduits. Et c'est vrai qu'en tant que peuple de Dieu dans ce pays, on voit que certaines fondations vacillent. Il n'y a qu'à penser un petit peu aux dernières votations qu'il y a eu, aux prochaines qui nous attendent. Alors, en tant que peuple de Dieu en Suisse, on en est où? Où est-ce qu'on en est dans notre relation avec Dieu, dans notre soumission à lui? Ce Dieu qui est invoqué chaque dimanche dans les églises, dans les temples de ce pays, qui est invoqué jour après jour dans les maisons, dans notre relation personnelle à lui. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est à notre place? Est-ce qu'on est à notre place dans le pays dans lequel il nous a placés? Au fait, est-ce qu'on sait quelle est notre place? Quelle est notre place dans ce pays? Quelle est notre place dans ce qu'on vit aujourd'hui? Quelle est notre place dans la situation actuelle? Je vais partir sur un autre prophète, je vais partir sur Ézéchiel. Ézéchiel qui a une mission à remplir, Dieu l'appelle à être une sentinelle. Et on va lire les six premiers versets de ce chapitre 33 d'Ézéchiel, où Dieu explique à Ézéchiel ce qu'est le rôle de la sentinelle. La parole de l'Éternel m'a été adressée. « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Tu leur diras, admettons que je fasse venir l'épée sur un pays et que la population du pays prenne l'un des siens pour l'établir comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Mais que celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l'épée, il sera seul responsable de sa mort. Il a entendu le son de la trompette, mais ne s'est pas laissé avertir. Son sang retombera donc sur lui. Si en revanche, il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne prendre la vie à quelqu'un, cette personne mourra à cause de ses fautes. Mais je réclamerai son sang à la sentinelle. » La mission d'Ézéchiel, elle est fondamentale. Si tu ne fais pas ce que je te demande de faire, tu auras à me rendre des comptes. C'est ce que Dieu est en train d'expliquer, de faire comprendre à Ézéchiel. Et il le lui explique plusieurs fois dans ce chapitre, de plusieurs manières. Et quelque part, nous sommes tous appelés à être des sentinelles, là où Dieu nous a placés. Parfois contre notre gré, parfois on est dans des situations où on se dit « mais pourquoi est-ce que je suis là ?» Tu es appelé à être une sentinelle, là où Dieu te place. Pour les habitués de la Suisse, chaque année, le premier ou le deuxième mercredi de février, je ne sais plus, à 13h30, il se passe quelque chose en Suisse, dans toute la Suisse. Il se passe quoi? Les sirènes, exactement. Le test des sirènes dans toute la Suisse. Alors on les entend, puis elles s'arrêtent, puis la vie continue. Comment est-ce qu'on réagirait si maintenant on entendait les sirènes commencer à hurler? Alors si on habite dans la vallée du Rhône, on se dit, ouais, peut-être qu'il y a un barrage qui a des problèmes. On commence à se méfier. Mais franchement, ici, sur notre montagne, ça peut être qu'un bug informatique, c'est tout. Ça peut être que ça. Moi, je me suis souvent posé la question, quand j'entends ces sirènes, je me pose souvent cette question. C'est vrai, on continue de varquer tout à fait normalement à nos occupations, parce que c'est un test et on le sait. Mais je me demande souvent comment est-ce que les personnes qui viennent de pays qui sont en conflit, de pays qui sont déchirés par la guerre, réagissent quand elles entendent ces, tests, quand elles entendent ces sirènes. Ça fait quelque chose en elles, ça doit réagir. Jusqu'à ce qu'elles puissent se dire non, c'est bon, c'est un test. Mais au fond d'elles, ça réagit. Et de même, une sentinelle, quand elle s'exprime, quand elle parle, elle doit faire réagir. Il doit se passer quelque chose dans le cœur des personnes qui entendent cette sentinelle. Alors, soit c'est de l'indifférence, on laisse passer. C'est maintenant, mais ça va passer, ça va s'arrêter. Soit il y a un questionnement qui va amener une réaction. Et cette réaction, ce n'est plus de la responsabilité de la sentinelle, c'est de la responsabilité de la personne qui entend la sentinelle, qui entend les paroles, qui entend le danger qui est annoncé. Le travail de la sentinelle, c'est d'avertir, c'est de dire ce qu'elle voit, c'est sa mission. Elle s'arrête là, mais c'est sa mission. Et si cette mission n'est pas accomplie, ben, la suite, elle n'a pas lieu. Dieu nous a placés comme sentinelles, chacun à une place différente. Pour que le peuple, notre peuple, soit averti. Pour que le peuple soit averti de ce qu'on voit se préparer, de ce qu'on voit arriver. Que le peuple soit averti que oui, il y a un jugement de Dieu derrière tout ça. Il y a un jugement de Dieu. Mais qu'il y a cette porte de sortie où Dieu veut nous restaurer, où Dieu veut restaurer, veut relever, veut changer les situations. Et je crois qu'il n'y a pas que le monde qui a besoin de sentinelles. L'Église a besoin aussi de sentinelles pour l'avertir. Pour la réveiller de temps en temps, pour la secouer. Quand j'étais à l'école, je n'étais pas très bon en allemand. Et souvent, quand j'hésitais à mon examen d'oral, j'avais un prof qui avait vraiment de la carrure, qui avait de l'autorité, qui était en blouse blanche encore, donc c'était vraiment le vrai prof, quoi. Le vrai vieux prof. Puis quand je ne savais pas trop, je disais un truc, il me disait « T'es sûr de ce que tu dis ?» Puis moi, je lui disais « Ben, je crois. » Alors, sa réplique était toujours la même. Ici, on est sûr, c'est à l'Église qu'on croit. Et il me l'a dit plusieurs fois, ça. Mais chaque fois, ça, au fond de moi, il y a quelque chose qui... quelque chose qui me dérangeait, quoi. C'était pas... Ça ne m'allait pas, mais je... voilà. Hein. Enfin, face à un prof comme ça, on se tait. Et l'Église, aujourd'hui... Elle est en danger. Et un des dangers, c'est justement que la foi ne se vive que dans nos quatre murs, que dans l'Église. Ailleurs, on ne vit pas la foi. Notre sécurité, notre bien-être. Ici, on est tranquille, on ne dérange personne. On est à l'abri des regards. D'ailleurs, on a même mis des stores. Mais ce n'est pas pour ça, hein. C'est à cause du contre-jour pour ceux qui sont à la maison. Mais voilà, on est bien, personne ne nous voit. Personne ne va se moquer de nous demain parce qu'il nous a vus en train de prier dans l'église. Et pour ceux qui sont à la maison, je ne veux pas les épargner non plus. Suivre le culte en ligne, personne ne va vous soupçonner de quoi que ce soit. Vous êtes chez vous, tranquille. Est-ce que nous sommes les mêmes personnes au dehors qu'ici? Je parle de notre Église, mais je parle de l'Église de Jésus-Christ en général. Est-ce qu'en tant que chrétien, on est les mêmes à l'extérieur qu'ici? Et plusieurs pourront dire que oui. Mais je crois que parfois, le Seigneur doit nous remettre à l'ordre et nous remettre face à nos responsabilités. Chez nous, quand on a une fête de famille, spécialement à Noël, et Marianne me le relève chaque fois, il se passe un truc assez spécial quand même. Noël, on mange ensemble, on papote, on a une super ambiance, les enfants rigolent, ils sont à leur table, mais voilà, il y a une super ambiance. Il faut dire qu'on est dans une famille chrétienne, nos parents sont chrétiens, notre famille, on est vraiment dans un milieu chrétien. Et à un moment donné, on va prendre un moment avec Dieu. Chouette. Un petit moment avec Dieu. Parce que juste avant, il n'était pas là. Et puis, tout devient calme, il n'y a plus un bruit, on est tranquille, on ne bouge plus. C'est le silence, ça devient solennel. Il y a quelques chants, il y a peut-être la lecture de l'histoire de Noël, nos deux prières, et tout reste calme. Finalement, pour un petit peu décoincer le truc, est-ce qu'il y a un enfant qui a une petite poésie? Puis on remet les assiettes de biscuits sur la table, les plats de fruits, et c'est reparti, on recommence de nouveau à vivre normalement. On a vécu notre temps, on revit autre chose. C'est peut-être caricaturé, mais il y a vraiment quelque chose de l'état d'esprit de l'Église occidentale. Qu'est-ce qui différencie un chrétien d'une personne qui ne connaît pas Dieu? Nous, on a des voisins, c'est des voisins géniaux, ils sont hyper accueillants, ils sont toujours serviables, ils feraient tout pour nous, ils feraient tout pour les personnes qui ont besoin de quelque chose autour d'eux. Il y a juste le petit refrain à la fin, mais il ne leur manque que le Seigneur. Peut-être que des gens nous voient partir tous les dimanches matins à 9h, mais 9h15, bien habillés. Puis ils disent, mais ceux-ci ne vont pas faire leur jogging. C'est sûr qu'ils vont au culte. Mais c'est peut-être la seule façon pour eux de savoir qu'on est chrétien. Qu'est-ce qui fait la différence? Dans Galates 2:20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça fera toute la différence. Et on le verra plus loin encore, ça fera toute la différence. Parce que ce n'est plus mes peurs, mes craintes, mes doutes, ma peur du qu'en dira-t-on et toutes ces choses-là. Non, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ qui vit en moi, ça change tout parce que ce n'est plus moi qui suis devant. Mais est-ce que je peux vraiment le dire? Que tous les jours, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Notre nation, elle a besoin aujourd'hui plus que jamais d'une église qui soit debout, une église qui se lève, une église qui soit à son poste. Un peuple qui ose parler en son nom. Un peuple qui ne se laisse pas arrêter par les embûches, par les règles, par les règlements qu'on lui donne. Et là, je repense aussi au message de Florence quand elle nous parler de Pierre et Jean qui ont été arrêtés. Et puis, finalement, ils ont été relâchés avec l'interdiction formelle de parler de Jésus. Et à ce moment-là, est-ce qu'ils se sont tus? Non. Leur vision, il n'y avait qu'une vision, c'était d'aller de l'avant. Être des sentinelles, quoi qu'il se passe. Continuer de parler. Continuer de dire les choses, de dire qui est ce Jésus qu'ils ont crucifié. Ils sont allés au-delà, ils ne se sont pas laissés impressionner. Et pour Paul, qui, lui pourtant, a combattu ses croyants qui étaient zélés, c'est devenu aussi une évidence à un moment donné, parce qu'il s'est laissé transformer par Christ et parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter en lui. Il est descendu sur lui. Alors, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, que rien ne se passe en Suisse. Loin de moi. Loin de moi cette idée. Bien au contraire. Il y a plein de choses qui se passent, des choses organisées puis des choses spontanées. On voit des gens en ville qui sont là comme des poissons dans l'eau. Ils sont à leur place et ils sentent que c'est leur appel, que c'est l'appel que Dieu leur a donné. Il y a également un mouvement dont j'aimerais juste vous parler en deux mots, plusieurs le connaissent. C'est le mouvement Prière pour la Suisse. C'est un mouvement qui est en Suisse allemande comme en Suisse romande, mais vraiment sur toute la Suisse. Et son but, c'est favoriser une prière nationale, rapprocher les initiatives et mouvements de prière et chercher la pensée divine pour le pays. Et ce mouvement a mis en place une muraille de prière qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Canton par canton, un canton après l'autre prend le relais pour prier pour la Suisse. C'est aussi une association qui met régulièrement sur pied des rencontres de prière sur les sommets des montagnes. Si vous êtes monté à Chasseral, peut-être vous avez vu un endroit, il y a une petite plaque avec un verset biblique. Cherchez-le la prochaine fois que vous y allez. Il est assez près de l'hôtel. Voilà, c'est eux qui l'ont mis. On en a aussi vu un avec Marianne au Nison, sans le savoir au départ, mais on est tombé dessus. Et à plusieurs places. Les sentinelles. Je ne dis pas qu'on doit tous être appelés à fonctionner dans ce mouvement-là. Mais celui qui est appelé doit le faire parce qu'il y a besoin. Parce qu'il y a besoin de ça. C'est une manière concrète d'être sentinelle pour ceux que le Seigneur veut placer là. Alors, en tant qu'Église, on est placé dans cette ville. Comment être la sentinelle que Dieu veut qu'on soit? Comment est-ce qu'on va entrer en contact avec les gens? C'est une question qu'on se pose. Il y a tout ce qu'on vit, tout ce qui se vit déjà. Mais concrètement, avec ce qui se passe aujourd'hui, quelle est la place de l'Église? Les œuvres sociales, il y a plein de choses qui se font. Puis il y a des règlements, et c'est compliqué. Mais je suis convaincu qu'à un moment donné, Dieu va nous montrer quelque chose de concret. Est-ce qu'on sera prêt? Est-ce qu'on sera prêt à l'entendre? J'aimerais terminer ce message avec un autre texte de Paul dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 19, où il parle de ça aussi. Il dit, si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'Évangile. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Paul le dit clairement, c'est une évidence que l'Évangile doit être annoncé. Ça doit le devenir pour nous, ça doit le devenir pour moi. Et ça me remet en question personnellement. Alors je ne parle pas d'une campagne d'évangélisation où on est chacun sur une tribune et puis qu'on espère qu'il y ait plein de monde devant nous. Quoique si ça se présente, Pierre, Jean, même Étienne, ils n'avaient pas prévu l'estrade. Et pourtant, ils se sont retrouvés sur une estrade, ils n'ont pas eu le temps de préparer leur message. Mais Dieu a parlé au travers d'eux. Dieu a parlé au peuple au travers d'eux. Et Paul parle de deux états d'esprit avec lesquels je peux le faire. Je peux le faire de bon cœur et simplement pouvoir offrir gratuitement l'évangile qui va transformer des vies et ça m'amène tellement de joie. C'est ce que Paul vit et c'est ce que plusieurs vivent dans l'Église. Et j'aimerais leur dire, mais vous faites envie. Vous me faites envie. Parce que pour combien d'entre nous, on sait qu'on doit le faire, mais c'est difficile. C'est une charge qui nous est confiée. Et pour moi, c'est chaque fois une bataille que d'oser ouvrir la bouche. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vraiment c'est maintenant qu'il faut que je le fasse? Est-ce que c'est à moi de le faire? Etc. Il y a toujours plein de questions qui font que finalement l'occasion, elle a passé. Moi, je fais partie de cette deuxième catégorie. Ceux qui, pour qui c'est une charge. Et je ne suis pas le seul, je le sais. Alors, on n'est pas tous appelés à devenir des grands évangélistes, à devenir des personnes de référence au niveau de l'évangélisation. Non, il y a des charismes. Mais là où je suis appelé à être une sentinelle, dans mon quartier, dans mon immeuble, dans mes relations, mon travail, d'oser ouvrir la bouche naturellement. Le Seigneur veut qu'on le vive comme un cadeau qu'on peut offrir à ceux à qui on parle. Un cadeau qu'on leur offre. On a plus souvent l'impression d'aller les déranger que de leur offrir un cadeau, non? Et je repense au verset du début, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Est-ce que je veux être cette sentinelle calme et confiante? Si pour toi c'est un combat, c'est une lutte, c'est une charge et que tu aimerais que ça change, j'aimerais que Marianne Dupuis ni au piano, non? Si au fond de toi tu réalises ce matin que c'est un combat, que c'est une lutte, c'est difficile. Le Seigneur nous dit, mais ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Rita, tout à l'heure, il voyait des cœurs abattus, des cœurs déconcertés, des cœurs en panique. Quand on est face à notre devoir de sentinelle, est-ce qu'on vit ces paniques, ces peurs, ces craintes? Le Seigneur veut frayer un chemin. Il fraye un chemin. Il veut le frayer pour nous. Il veut nous ouvrir ce chemin. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, mais ce matin, j'aimerais vous demander si vous vous sentez dans cette deuxième catégorie de personnes, ces personnes pour qui c'est une charge, c'est une difficulté, c'est un combat. D'oser ouvrir la bouche, d'oser parler. Que simplement on puisse se lever ensemble et nous placer devant le Seigneur. Que ce soit ici, que ce soit vous à la maison. On va s'unir et se placer devant lui pour lui demander vraiment son esprit. Cet esprit qui change tout, qui transforme nos vies. Alors simplement, je vous invite à ceux qui le veulent, levez-vous et plaçons-nous devant le Seigneur. Seigneur, on est là, devant toi ce matin, dans ta présence tellement bienfaisante, cette présence, Seigneur, qui nous fait du bien, cette présence qui nous renouvelle, qui nous transforme, qui nous relève. Saint-Esprit, je t'invite au milieu de nous. Viens, viens Seigneur, transformer nos vies. Viens placer, Seigneur, cette vie, ta vie en nous. Que dans les domaines où c'est encore moi qui vis, Seigneur, que ce soit toi qui puisses vivre. Seigneur, je veux renoncer à ces endroits qui sont ma propriété pour te les donner. Saint-Esprit, ce matin, je t'appelle. Je t'appelle dans ce lieu, je t'appelle sur chacune de nos vies. On réalise, Seigneur, qu'on a besoin de toi. Que sans toi, on ne peut pas. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux à ta compréhension. Ouvre nos yeux, Seigneur, à voir l'urgence, à voir le besoin. À voir la réalité. Pour que nous soyons, Seigneur, convaincus de ce que nous annonçons, de ce que nous avons à partager, de ce que nous avons à dire. Seigneur, ouvre notre bouche. Seigneur, merci parce que tu vas la remplir. Seigneur, je veux vraiment appeler ta bénédiction sur chacun. Ta restauration, ta transformation dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu souffles par ton esprit sur nous. Tu souffles sur nos vies. Merci parce que c'est toi qui transformes. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre dans nos vies ce matin.
Amen.
Merci Saint-Esprit. Amen.